Note sur le livre du Lévitique par C.H. McIntosh, édition 1957. Chapitre 10. Lecture de l'étude. Les pages de l'histoire de l'humanité ont toujours été déplorablement souillées. Ce sont, du commencement à la fin, les annales des chutes, des fautes, des crimes de l'homme. Au milieu des délices du jardin d'Éden, l'homme prêta l'oreille au mensonge du tentateur, Genèse chapitre 3. Après avoir été préservé du jugement par la main d'amour et l'élection de Dieu, et introduit dans une terre renouvelée, il se rendit coupable du péché d'intempérance, Genèse chapitre 9. Quand il eut été amené au pays de Canaan par le bras étendu de l'Éternel, il abandonna l'Éternel et servit Baal et Ashtaroth, Juges 2, verset 13. Placé au plus haut degré de la puissance et de la gloire terrestre, ayant des richesses inouïes à ses pieds et toutes les ressources du monde à son commandement, il donna son cœur aux filles des incirconcis. 1 Roi, chapitre 11. Pas plus tôt les vérités bénies de l'Évangile eurent été promulguées qu'il devint nécessaire que le Saint-Esprit mît les saints en garde contre les loups redoutables, l'apostasie et toute espèce de péché. Acte 20, verset 29.
Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau.
1 Timothée 4, verset 1 à 3.
Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité.
2 Timothée 3, versets 1 à 5.
Or sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens.
2 Pierre, chapitre 2 et Jude. Et pour mettre le comble à tout cela, nous avons le témoignage prophétique de l'apostasie humaine au milieu de toutes les splendeurs de la gloire millénaire. Apocalypse 20, versets 7 à 10.
Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
C'est ainsi que l'homme gâte tout. Placez-le dans une position de suprême dignité, il se dégradera. Accordez-lui les plus grands privilèges, il en abusera. Répandez, avec profusion, des bénédictions autour de lui, il se montrera ingrat. Placez-le au milieu des institutions les plus propres à faire impression sur les cœurs, il les corrompra. Tel est l'homme, telle est la nature humaine, sous ses plus belles formes et dans les circonstances les plus favorables. Nous sommes donc, en quelque mesure, préparés à entendre, sans trop de surprise, les paroles qui ouvrent notre chapitre. Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir et y mirent du feu, et placèrent de l'encens dessus, et présentèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas commandé. Quel contraste avec la scène qui avait terminé notre dernière section. Là, tout avait été fait comme l'Éternel l'avait commandé, et le résultat en avait été la manifestation de la gloire. Ici, quelque chose se fait que l'Éternel ne leur avait pas commandé, et le résultat en est le jugement. À peine le dernier son des cris de victoire a-t-il cessé de retentir, que les éléments d'un culte corrompu se préparent. À peine la position selon Dieu a-t-elle été occupée, qu'elle est abandonnée de propos délibérés par la négligence du commandement divin. À peine ces sacrificateurs ont-ils été inaugurés, qu'ils manquent grièvement dans l'accomplissement de leur sainte fonction. Et en quoi consistait leur faute? Étaient-ils de faux sacrificateurs? N'étaient-ils que des usurpateurs de cet office? Nullement. Ils étaient bien les fils d'Aaron, de vrais membres de la famille sacerdotale, des sacrificateurs dûment ordonnés. Les vases de leur ministère et leurs vêtements officiels aussi semblaient dans l'ordre voulu. En quoi consistait donc leur péché? Avaient-ils souillé de sang humain les courtines du tabernacle, ou profané l'enceinte sacrée par quelque crime qui choque le sens moral? Rien ne donne lieu de le croire. Il nous est seulement dit ceci, ils présentèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas commandé. Voilà quel était leur péché. Ils s'éloignèrent, dans leur culte, de la simple parole, de l'ordre formel de l'Éternel qui les avait clairement instruits du genre et du mode de ce culte. Nous avons déjà dit combien était divinement complète et suffisante la parole du Seigneur relativement à tous les détails du service des sacrificateurs. Tout était si bien déterminé qu'il ne restait aucune lacune que l'homme crut pouvoir remplir en imaginant quelque rite qui lui paraîtrait convenable. C'est ici ce que l'Éternel a commandé. Voilà qui était tout à fait suffisant. Cela rendait tout fort clair et fort simple. Du côté de l'homme, rien n'était exigé, si ce n'est un esprit d'obéissance implicite au commandement divin. Mais c'est en cela qu'il manqua. L'homme a toujours montré de la répugnance à marcher dans le sentier étroit d'une stricte adhésion à la simple parole de Dieu. Les sentiers de traverse semblent toujours avoir des charmes irrésistibles pour le pauvre cœur humain. Les eaux dérobées sont douces, et le pain mangé en secret est agréable, Proverbe 9, verset 17. Tel est le langage de l'ennemi. Mais le cœur humble et obéissant sait parfaitement que le chemin de la soumission à la parole de Dieu est le seul qui conduise à des eaux qui soient réellement douces ou à du pain qui puisse vraiment être appelé agréable. Nadab et Abihu pouvaient penser qu'une espèce de feu était aussi bonne qu'une autre, mais ce n'était pas leur affaire de décider ce point-là. Ils auraient dû s'en tenir à la parole du Seigneur. Mais au lieu de cela, ils firent à leur tête et recueillirent les fruits amers de la propre volonté. Et il ne sait pas que les trépassés sont là et que ses conviés sont dans les profondeurs du Shéol. Et le feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Combien c'est sérieux et solennel! L'Éternel habitait au milieu de son peuple, pour gouverner, juger et agir selon les droits de sa nature. À la fin du chapitre 9, nous lisons « Et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. » L'Éternel montrait ainsi qu'il acceptait un sacrifice véritable. Mais, au chapitre 10, c'est son jugement tombant sur des sacrificateurs égarés. C'est une double action du même feu. L'holocauste monta en agréable odeur. Le feu étranger fut rejeté comme une abomination. L'Éternel était glorifié par le premier, mais c'eût été un déshonneur pour lui que d'accepter le second. La divine grâce agréer ce qui était un type du précieux sacrifice de Christ, et elle y prenait plaisir. La divine sainteté rejetait ce qui était le fruit de la volonté corrompue de l'homme, volonté qui n'est jamais plus hideuse et abominable que quand elle s'occupe des choses de Dieu. Et Moïse dit à Aaron, c'est là ce que l'Éternel prononça en disant, « Je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi, et devant tout le peuple je serai glorifié. » La dignité et la gloire de l'économie tout entière dépendaient du strict maintien des justes droits de l'Éternel. Si ces droits étaient méconnus ou négligés, tout était perdu. S'il était permis à l'homme de souiller le sanctuaire de la présence divine par un feu étranger, c'en était fait de tout le reste. Rien ne devait monter de l'encensoir du sacrificateur, sauf le feu pur, allumé sur l'autel de Dieu et alimenté par le pur encens pilé très fin. Beau type du culte vraiment saint, duquel le Père est l'objet, Christ le canal et le Saint-Esprit la puissance. Il ne peut être permis à l'homme d'introduire ses idées ou ses inventions dans le culte de Dieu. Tous ses efforts n'aboutissent qu'à la présentation d'un feu étranger, d'un encens impur, d'un culte faux. Ce qu'il peut faire de mieux en ce genre n'est qu'une abomination aux yeux de Dieu. Je ne parle pas ici des efforts honnêtes d'esprit sérieux qui cherchent la paix avec Dieu, des efforts sincères de conscience droite, quoique non éclairés, pour arriver à la connaissance du pardon des péchés par des œuvres de loi ou par les ordonnances d'un système religieux. De tels efforts auront sans doute pour résultat, par l'infinie bonté de Dieu, la vue claire d'un salut connu et apprécié. Il prouve bien clairement que la paix est sérieusement cherchée, quoiqu'il prouve tout aussi clairement que la paix n'a pas encore été trouvée. Il n'est personne qui ait sincèrement suivi les plus faibles lueurs, éclairant son intelligence, sans en recevoir davantage en temps convenable. À quiconque a, il sera donné, et le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Tout cela est aussi simple qu'encourageant, mais ne touche en rien à la question de la volonté de l'homme et de ses impies inventions à l'endroit du service et du culte de Dieu. De telles inventions doivent inévitablement appeler, tôt ou tard, les jugements d'un Dieu juste qui ne peut souffrir que ses droits soient méprisés. Je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi, et devant tout le peuple je serai glorifié. Les hommes seront traités conformément à leur profession. Ceux qui cherchent avec droiture trouveront certainement. Mais quand des hommes s'approchent comme des adorateurs, ils ne doivent plus être considérés comme des chercheurs, mais comme faisant profession d'avoir trouvé. Et alors, si leur encensoir sacerdotal fume d'un feu profane, s'ils offrent à Dieu les éléments d'un faux culte, s'ils font profession de fouler ses parvis, tout en n'étant ni lavés, ni sanctifiés, ni humiliés, s'il place sur son autel les produits de leur volonté corrompue, quel sera le résultat? Le jugement. Oui, tôt ou tard, le jugement viendra. Il peut tarder, mais il viendra. Il n'en pourrait être autrement. Et non seulement le jugement viendra à la fin, mais, en tout cas, le ciel rejettera immédiatement tout culte qui n'a pas le Père pour objet, Christ pour canal, et le Saint-Esprit pour sa force. La sainteté de Dieu est aussi prompte à rejeter tout feu étranger que sa grâce est disposée à accepter les plus faibles soupirs d'un cœur sincère. Il faut qu'il juge tout culte faux, quoiqu'il n'éteigne jamais le lin qui brûle à peine, ni ne brise le roseau froissé. Cette pensée est bien solennelle quand on se rappelle les milliers d'encensoirs fumant d'un feu étranger dans les vastes domaines de la chrétienté. Veuille le Seigneur, dans son abondante grâce, augmenter le nombre des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4. Il est infiniment plus doux de penser au vrai culte qui s'élève de cœur honnête jusqu'au trône de Dieu que de s'arrêter, ne fût-ce que pour un instant, sur le culte corrompu qui attirera, avant qu'il soit longtemps, les jugements divins. Tous ceux qui connaissent par grâce le pardon de leurs péchés en vertu du sang expiatoire de Jésus-Christ peuvent adorer le Père en esprit et en vérité. Ils connaissent le vrai principe, le vrai objet, la vraie force du culte. Ces choses ne peuvent être connues que d'une manière divine. Elles ne sont pas du ressort du cœur naturel, ni de la terre, elles sont spirituelles et célestes. Une grande partie de ce qui passe parmi les hommes pour être le culte de Dieu n'est, après tout, qu'un feu étranger. Il n'y a là ni le feu pur, ni le pur encens, c'est pourquoi le ciel ne saurait l'accepter. Et quoiqu'on ne voit pas le jugement divin tomber sur ceux qui offrent un tel culte, comme il tomba autrefois sur Nadab et Abihu, c'est seulement parce que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute. Ce n'est point parce que le culte est agréable à Dieu, mais parce que Dieu est miséricordieux. Une note en bas de page. Je ne puis m'empêcher de voir une allusion au même fait et aux mêmes vérités dans Hébreux 12, versets 28 et 29. Retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte, car aussi notre Dieu est un feu consumant. Notre service et notre culte ne peuvent être agréables à Dieu. Ils ne peuvent témoigner de notre respect pour lui et de notre soumission à ses pensées qu'autant que nous retenons la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu, manifesté par le don de son Fils et versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tout service et tout culte, en dehors de la grâce, doit avoir affaire avec Dieu, notre Dieu, qui est alors un feu consumant, non plus pour détruire les adorateurs, si ce n'est que, parfois, ces jugements vont aussi jusqu'à la destruction du corps, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, mais pour consumer ou détruire tout ce qui, dans ce service et dans ce culte, n'est pas selon la grâce. Voir 1 Corinthiens 3, versets 11-15.
Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Note du traducteur.
Reprise de l'étude. Cependant, le temps approche rapidement où le feu étranger sera éteint pour toujours, où le trône de Dieu ne sera plus outragé par des nuages d'encens impurs, montant d'adorateurs impurs, où tout ce qui est faux sera aboli, et où l'univers entier ne sera qu'un vaste et magnifique temple dans lequel le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sera adoré au siècle des siècles. C'est là ce que les rachetés attendent, et, béni soit Dieu, seulement encore un peu de temps et tous leurs ardents désirs seront pleinement satisfaits, et satisfaits à jamais. Oui, satisfait de telle façon que chacun d'eux s'écriera, comme la reine de Sheba, « On ne m'avait pas rapporté la moitié. Veuille le Seigneur hâter cet heureux moment. » Revenons maintenant à notre sérieux chapitre. et cherchons à en tirer quelques-unes de ces salutaires instructions, car elles sont vraiment nécessaires dans un siècle comme celui-ci, où le feu étranger abonde tellement autour de nous. Il y a quelque chose d'extraordinairement frappant et saisissant dans la manière dont Aaron reçut le rude coup du jugement de Dieu, et Aaron se tut. C'était une scène solennelle, ses deux fils frappés de mort à ses côtés, frappés par le feu du jugement divin. Une note en bas de page. Craignant que quelques lecteurs n'éprouvent de la difficulté relativement aux âmes de Nadab et d'Abihu, je dirais qu'une question de cette nature ne devrait jamais être élevée. Dans des cas comme ceux de Nadab et d'Abihu, Lévitique 10, de Corée et de sa compagnie, nombre 16, de tout le peuple dont les corps tombèrent au désert, à l'exception de Josué et de Caleb, nombre 14 et Hébreux 3, de Hakan et de sa famille, Josué 7, d'Ananias et de Saphira, acte 5, de ceux qui furent jugés pour des abus commis à la table du Seigneur, 1 Corinthiens 11. Dans tous les cas semblables, la question du salut de l'âme n'est jamais soulevée. Nous sommes simplement appelés à y voir les actes solennels de Dieu dans son gouvernement au milieu de son peuple. Cela soulage l'esprit de toute difficulté. L'Éternel habitait, jadis, entre les chérubins sur l'arche, pour juger son peuple à tous égards, et le Saint-Esprit habite maintenant dans l'Église, afin de diriger et de gouverner tout, conformément à la perfection de sa présence. Il était si réellement et si personnellement présent, que c'était à lui que mentaient Ananias et Saphira, et que c'était lui qui exécutait le jugement sur eux. C'était une manifestation de ses actes en gouvernement, aussi positive et aussi immédiate que celle que nous avons dans l'affaire de Nadab et d'Abihu, de Hakan ou de tout autre. C'est une grande vérité qu'il faut bien saisir. Dieu est non seulement pour ses serviteurs, mais avec eux et en eux. On doit compter sur lui pour toutes choses, grandes ou petites. Il est présent pour consoler et pour soulager. Il est là pour châtier et pour juger. Il est là pour répondre aux besoins de chaque moment. Il suffit à tout que la foi compte sur lui. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, Matthieu 18, verset 20. Et assurément, là où il est, nous avons tout ce qu'il nous faut. Reprise de l'étude. Il venait de les voir revêtus de leurs vêtements de gloire et de beauté, lavés, habillés et oints. Il s'était tenu avec lui devant l'Éternel pour être installés et consacrés dans leur office de sacrificateur. Ils avaient offert, de concert avec lui, les sacrifices ordonnés. Ils avaient vu les rayons de la gloire divine sortant du sanctuaire. Ils avaient vu le feu de l'Éternel tomber sur le sacrifice et le consumer. Ils avaient entendu les cris de triomphe poussés par l'assemblée des adorateurs. Tout cela venait de passer sous ses yeux, et maintenant, hélas, ses deux fils gisaient devant lui, frappés de mort. Le feu de l'Éternel, qui avait été nourri naguère par un sacrifice acceptable, était maintenant tombé en jugement sur eux, et que pouvait-il dire? Rien. Et Aaron se tut. Je suis resté muet, je n'ai pas ouvert la bouche, car c'est toi qui l'as fait. C'était la main de Dieu. Et quoiqu'elle pût paraître bien lourde au jugement de la chair et du sang, il ne pouvait cependant que baisser la tête en silence et dans un respectueux acquiescement. « Je suis resté muet, car c'est toi qui l'as fait. » C'était là l'attitude convenable en présence de la visitation divine. Aaron sentait probablement que les piliers mêmes de sa maison étaient ébranlés par le tonnerre du jugement divin, et pourtant, il ne pouvait que se tenir dans un silencieux étonnement au milieu de cette scène accablante. Un père privé de ses deux fils, et cela d'une telle manière et dans de telles circonstances, ce n'était point un fait ordinaire. C'était un commentaire extrêmement frappant de ces paroles du psalmiste. Dieu est extrêmement redoutable dans l'assemblée des saints et terrible au milieu de tous ceux qui l'entourent. Psaume 89. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Puissions-nous apprendre à marcher paisiblement en la présence de Dieu, à fouler les parvis de l'Éternel, les pieds déchaussés et en toute révérence. Puisse notre encensoir de sacrificateur contenir toujours le seul aliment, l'encens pilé des perfections variées de Christ, et puisse la flamme sainte en être allumée par la puissance de l'Esprit. Toute autre chose est non seulement sans valeur, mais mauvaise. Tout ce qui vient de l'énergie naturelle, tout ce qui est le résultat du travail de la volonté humaine, l'encens le plus suave imaginé par l'homme, l'ardeur la plus intense d'une dévotion naturelle, tout cela aboutira à un feu étranger et attirera les solennels jugements du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, puissions-nous avoir toujours des cœurs vraiment sincères et un esprit d'adoration en présence de notre Dieu et Père. Cependant qu'un cœur droit mais timide ne se laisse pas décourager ou alarmer, il arrive trop souvent que ceux qui devraient réellement être alarmés n'y prennent pas garde, tandis que ceux pour lesquels l'Esprit de grâce n'aurait que des paroles de consolation et d'encouragement s'appliquent, à tort, les sévères avertissements des saintes Écritures. Nul doute que le cœur doux et contrit, qui tremble à la parole du Seigneur, ne soit dans un bon état, mais nous devons nous souvenir qu'un père avertit son enfant, non parce qu'il ne le regarde pas comme son enfant, mais justement pour le contraire. Et une des meilleures preuves de cette relation est la disposition à recevoir l'avertissement et à le mettre à profit. La voix du Père, même quand c'est une voix de grave admonition, atteindra le cœur de l'enfant, mais certes, non pas pour y élever des doutes sur son lien de parenté avec celui qui parle. Si un fils doutait de ses relations de fils, chaque fois que son père le reprend, ce serait vraiment pitoyable. Le jugement qui venait de tomber sur la famille d'Aaron ne le fit pas douter qu'il fût réellement un sacrificateur. Il eut seulement pour effet de lui apprendre comment il devait se conduire dans cette haute et sainte position. Et Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar ses fils, « Ne découvrez pas vos têtes et ne déchirez pas vos vêtements, afin que vous ne mouriez pas et qu'il n'y ait pas de la colère contre toute l'assemblée. Mais vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront l'embrasement que l'Éternel a allumé. Et ne sortez pas de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Et ils firent selon la parole de Moïse. Aaron, Éléazar et Ithamar devaient rester immobiles dans leur place élevée, dans leur dignité sacrée, leur position de sainteté sacerdotale. Ni le manquement, ni le jugement qui en avait été la conséquence ne devait affecter ceux qui portaient les vêtements sacerdotaux et qui étaient oints de l'huile de l'Éternel. Cette sainte huile les avait placés dans une enceinte sacrée où les influences du péché, de la mort et du jugement ne pouvaient pas les atteindre. Ceux qui étaient en dehors, à distance du sanctuaire, ceux qui n'avaient pas la position de sacrificateur, ceux-là pouvaient pleurer l'embrasement. Mais quant à Aaron et à ses fils, ils devaient continuer à accomplir leur sainte fonction, comme si rien n'était arrivé. Sacrificateurs du sanctuaire, ils devaient, non pas pleurer, comme en présence de la mort, mais courber leur tête ouinte, en présence du jugement divin. Le feu de l'Éternel pouvait sortir et faire son œuvre solennelle de jugement. Mais, pour un fidèle sacrificateur, peu importait ce que ce feu était venu faire. soit qu'il eût exprimé l'approbation divine en consumant un sacrifice, soit qu'il eût montré le déplaisir divin en consumant ce qui offrait un feu étranger, le sacrificateur n'avait qu'à adorer. Ce feu était une manifestation bien connue de la présence divine au milieu d'Israël, et qu'il agit en grâce ou en jugement, le devoir de tous les sacrificateurs fidèles était d'adorer. Je chanterai la bonté et le jugement. À toi, ô Éternel, je psalmodierai. Il y a pour l'âme une sainte et sérieuse leçon dans tout cela. Ceux qui ont été amenés à Dieu par l'efficace du sang et par l'onction du Saint-Esprit doivent se mouvoir dans une sphère hors de la portée des influences naturelles. La proximité de Dieu donne à l'âme une telle intuition de toutes ses voies, un tel sentiment de la justice de toutes ses dispensations, que nous pouvons rendre culte en sa présence, même alors qu'un coup de sa main nous a enlevé l'objet de notre plus tendre affection. On demandera peut-être, devons-nous être des stoïques ? Je demanderai à mon tour, est-ce qu'Aaron et ses fils étaient des stoïques ? Non, ils étaient des sacrificateurs. Ne sentaient-ils pas comme les autres hommes ? Oui, mais ils adoraient comme sacrificateurs. C'est une idée très profonde. Cela découvre un horizon de pensée, de sentiments et d'expériences où l'homme naturel ne pourra jamais se mouvoir, dont il ne connaît absolument rien, malgré tout le raffinement, toute la sentimentalité dont il se vante. Il faut que nous marchions, avec la vraie énergie du sacrificateur, dans le sanctuaire de Dieu, pour pouvoir comprendre la profondeur, le sens et la force de ces saints mystères. Le prophète Ézéchiel fut appelé autrefois à apprendre cette difficile leçon, et la parole de l'Éternel vint à moi disant, « Fils d'homme, voici, je vais t'ôter par une plaie le désir de tes yeux, et tu ne mèneras pas d'œil, et tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. J'ai mis en silence, tu ne feras point le deuil des morts. Enroule ton turban sur toi, et mets tes sandales à tes pieds, et ne couvre pas ta barbe, et ne mange pas le pain des hommes. » Et le matin je fis comme il m'avait été commandé. Ézéchiel 24, versets 15 à 18. On dira que tout cela était un signe pour Israël, c'est vrai. Mais cela prouve que, dans le témoignage prophétique, aussi bien que dans le culte sacerdotal, nous devons nous élever au-dessus de toutes les exigences et de toutes les influences de la nature et de la terre. Les fils d'Aaron et la femme d'Ézéchiel avaient été retranchés d'un seul coup, et cependant, ni le sacrificateur ni le prophète ne devaient découvrir leur tête ou verser une larme. Ô chers lecteurs, quels progrès avons-nous fait, vous et moi, dans cette profonde science ? Le lecteur et celui qui écrit ont sans doute la même humiliante confession à faire. Trop souvent, hélas, nous marchons comme les hommes et nous mangeons le pain des hommes. Trop souvent, nous nous laissons dépouiller de nos privilèges de sacrificateurs par les menées de la nature et les influences de la terre. Il importe de veiller pour se garder de ces influences. Rien, sauf la conscience de la proximité de Dieu, comme sacrificateur, ne peut préserver le cœur de la puissance du mal ou en maintenir la spiritualité. Tous les croyants sont sacrificateurs à Dieu, et rien ne peut leur enlever leur position comme telle. Et quoi qu'ils ne puissent la perdre, ils peuvent manquer gravement dans l'accomplissement de leur fonction. On ne distingue pas assez ces deux choses. Quelques-uns, ne voyant que la précieuse vérité de la sécurité du croyant, oublient la possibilité de ses fautes dans l'accomplissement de ses fonctions sacerdotales. D'autres, au contraire, regardant surtout au manquement, osent mettre en doute la sécurité. Je désire que mon lecteur se garde de ces deux erreurs. Il faut, pour cela qu'il soit bien fondé dans la doctrine divine du salut éternel de tout membre de la vraie maison sacerdotale. Mais il doit aussi se rappeler qu'il est fort susceptible de faire des chutes, et qu'il a donc constamment besoin de veiller et de prier pour ne pas tomber. Puissent tous ceux qui ont été amenés à connaître la haute position de sacrificateurs à Dieu être préservés par sa grâce de toute espèce de manquement et de péché, qu'il consiste soit en souillure personnelle, soit en la présentation de quelqu'une des formes variées de feu étranger qui abondent tellement dans l'Église professante. Et l'Éternel parla à Aaron, disant, « Vous ne boirez point de vin ni de boisson forte, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. C'est un statut perpétuel en vos générations, afin que vous discerniez entre ce qui est saint et ce qui est profane, et entre ce qui est impur et ce qui est pur, et afin que vous enseigniez aux fils d'Israël tous les statuts que l'Éternel leur a dit par Moïse. » Versets 8 à 11. L'effet du vin est d'exciter la chair, et toute excitation de ce genre nuit à cette condition calme et bien équilibrée de l'âme qui est essentielle pour accomplir convenablement les offices de sacrificateur. Loin d'employer des moyens pour exciter la nature, nous devrions la traiter comme quelque chose qui n'existe pas. Alors, seulement, nous serons dans l'état moral voulu pour servir au sanctuaire, pour former un jugement impartial entre ce qui est souillé et ce qui est net, et pour expliquer et communiquer la pensée de Dieu. C'est à chacun de juger, pour lui-même, de ce qui, dans son cas particulier, agirait comme le vin ou la boisson forte. Une note en bas de page. Quelques-uns pensent que, vu la place qu'occupe ici cette direction sur le vin, Nadab et Abihu étaient peut-être sous l'influence de la boisson lorsqu'ils offrirent le feu étranger. Quoi qu'il en soit, nous devons être reconnaissants de trouver ici un principe précieux à l'égard de notre conduite comme sacrificateurs spirituels. Nous devons nous abstenir de tout ce qui produirait sur notre homme spirituel le même effet que le vin produit sur l'homme physique. Il est à peine besoin de dire que le chrétien devrait être des plus vigilants quant à l'usage qu'il fait du vin ou des boissons fortes. On tremble en voyant un chrétien être l'esclave d'une habitude, quelle que puisse être cette habitude. Cela prouve qu'il ne mortifie et n'asservit pas son corps, et il est en grand danger d'être réprouvé. 1 Corinthiens 9, verset 27.
Mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé.
Reprise de l'étude. Les choses qui excitent notre nature sont de bien divers genres en vérité. La fortune, l'ambition, la politique, les nombreux sujets d'émulation dans le monde autour de nous. Toutes ces choses agissent avec une puissance excitante sur notre nature et nous rendent complètement impropres à tout service sacerdotal. Si le cœur est enflé de sentiments d'orgueil, de convoitise ou d'envie, il est totalement impossible de jouir de l'air pur du sanctuaire ou d'accomplir les fonctions sacrées du ministère sacerdotal. Les hommes parlent de la versatilité de l'esprit humain ou de la facilité avec laquelle il passe promptement d'une chose à une autre. Mais le génie le plus versatile qu'un homme ait jamais possédé ne pourrait pas le rendre capable de passer d'un cercle profane de discussions littéraires, commerciales ou politiques, dans la sainte retraite du sanctuaire de la présence divine, ni rendre l'œil obscurci par l'influence de telles scènes, capable de discerner avec l'exactitude du sacrificateur la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, et entre ce qui est impur et ce qui est pur. Non, cher lecteur, les sacrificateurs de Dieu doivent se tenir éloignés du vin et de la boisson forte. Leur chemin est un chemin de sainte séparation et de sobriété. Ils doivent être élevés bien au-dessus de l'influence des joies terrestres, tout comme de celle des douleurs terrestres. La seule chose qu'ils aient à faire avec la boisson forte, c'est qu'elle soit versée dans le lieu saint en libation de boisson forte à l'Éternel. Nombre 28, verset 7.
Et sa libation sera d'un quart de hin pour un agneau. Tu verseras dans le lieu saint la libation de boisson forte à l'Éternel.
En d'autres termes, la joie des sacrificateurs de Dieu n'est pas la joie de la terre, mais la joie du ciel, la joie du sanctuaire, la joie de l'Éternel et leur force. Plût à Dieu que ces saintes instructions fussent mieux pesées par nous. Nous en avons un grand besoin, assurément. Si nous négligeons nos responsabilités de sacrificateurs, tout s'en ressentira. Quand nous contemplons le camp d'Israël, nous voyons trois cercles, dont le plus intérieur avait pour centre le sanctuaire. Il y avait d'abord le cercle des hommes de guerre, Nombre chapitre 1 et chapitre 2, puis le cercle des Lévites, tout autour du tabernacle, Nombre chapitre 3 et chapitre 4, et enfin le cercle intérieur des sacrificateurs, officiant dans le lieu saint. Or, rappelons-nous que le croyant est appelé à se mouvoir dans tous ces cercles. Il entre, lutte et combat comme un homme de guerre. Éphésiens 6, versets 11 à 17.
Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
1 Timothée 1, verset 18.
Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elle tu combattes le bon combat.
1 Timothée 6, verset 12.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins.
2 Timothée 4, verset 7.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course.
Il sert comme un lévite au milieu de ses frères, selon sa mesure et sa sphère. Matthieu 25, versets 14 et 15.
Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2 et à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays.
Luc 19, versets 12 et 13.
Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit, « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne. »
Enfin, il sacrifie et adore comme sacrificateur dans le lieu saint. Hébreux 13, versets 15 et 16.
Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices.
1 Pierre 2, versets 5 et 9.
Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
1 Pierre 2, verset 9.
Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Ce dernier office durera à toujours. En outre, ce n'est qu'en tant que nous serons rendus capables de nous mouvoir dûment dans ce cercle sacré que toutes les autres relations et responsabilités seront dûment accomplies. Par conséquent, tout ce qui entrave nos fonctions sacerdotales, tout ce qui nous éloigne du centre de ce cercle intérieur où nous avons le privilège de nous tenir, en un mot, tout ce qui tente à altérer notre relation de sacrificateur ou à obscurcir notre vision de sacrificateur, doit nécessairement nous rendre impropres au service que nous sommes appelés à rendre et à la guerre que nous sommes appelés à faire. Ce sont là des considérations importantes. Arrêtons-nous-y sérieusement. Nous avons à garder un cœur droit, une conscience pure, un œil simple, une vision spirituelle non troublée. Les intérêts de l'âme dans le lieu saint doivent être recherchés fidèlement et avec zèle, sans cela tout ira mal. La communion particulière avec Dieu doit être conservée, sans cela nous serons inutiles comme serviteurs et vaincus comme hommes de guerre. C'est en vain que nous nous agitons et courons ici et là pour ce que nous appelons service, ou que nous faisons de belles phrases sur l'armure et la lutte du chrétien. Si nous ne maintenons pas nos vêtements de sacrificateur sans souillure, et si nous ne nous gardons pas de tout ce qui exciterait notre nature, nous tomberons certainement. Le sacrificateur doit garder son cœur avec soin, sinon le lévite faillira et le guerrier sera défait. Je le répète, c'est l'affaire de chacun de se rendre clairement compte de ce qui, pour lui, constitue le vin et la boisson forte, de ce qui l'excite, de ce qui émousse ses perceptions spirituelles ou trouble sa vision sacerdotale. Il se peut que ce soit un marché, une exposition de bestiaux, un journal. Il se peut que ce soit la moindre bagatelle. Mais n'importe ce que c'est, si cela tente à exciter, cela nous rendra impropres au ministère de sacrificateur. Et si nous ne sommes pas qualifiés comme sacrificateurs, nous ne le sommes pas plus pour tout le reste, puisque nos succès, à tous égards et pour tous les détails de notre service, dépendront toujours de la mesure en laquelle nous cultiverons un esprit de culte. Exerçons donc un esprit de jugement sur nous-mêmes, un esprit de vigilance sur nos habitudes, nos voies, nos pensées, nos goûts et nos associations. Et quand, par grâce, nous découvrons quoi que ce soit qui ait la moindre tendance à nous détourner des saints exercices du sanctuaire, rejetons-le coûte que coûte. Ne nous laissons pas devenir les esclaves d'une habitude. La communion avec Dieu devrait être plus chère à nos cœurs que toute autre chose. Et dans la proportion où nous apprécierons cette communion, nous veillerons et prierons, et nous tiendrons en garde contre tout ce qui nous en priverait, contre tout ce qui pourrait exciter, troubler ou ébranler. Une note en bas de page. Quelques-uns penseront peut-être que le passage de Lévitique 10, verset 9, permet occasionnellement l'usage des choses qui tendent à exciter l'esprit naturel, parce qu'il est dit « Vous ne boirez point de vin ni de boisson forte quand vous entrerez dans la tente d'assignation. » À ceci, nous répondrons que le sanctuaire n'est pas un lieu que le chrétien doive visiter occasionnellement, mais un lieu dans lequel il doit habituellement servir et adorer. C'est la sphère dans laquelle il doit vivre, se mouvoir et avoir son être. Plus nous vivrons en la présence de Dieu, et moins nous pouvons souffrir d'en être éloignés. Et aucun de ceux qui connaissent le bonheur d'y être ne se permettra légèrement quoi que ce soit qui l'en priverait. Il n'y a pas sur toute la terre un seul objet qui, au jugement d'un cœur spirituel, puisse équivaloir à une heure de communion avec Dieu. Reprise de l'étude. Et Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, ses fils qui restaient, Prenez l'offrande de gâteau, ce qui reste des sacrifices de l'Éternel faits par feu, et mangez-la en pain sans levain à côté de l'autel, car c'est une chose très sainte, et vous la mangerez dans un lieu saint, parce que c'est là ta part et la part de tes fils dans les sacrifices de l'Éternel faits par feu, car il m'a été ainsi commandé, versets 12 et 13. Il y a peu de choses qui nous soient plus difficiles que de nous maintenir à la hauteur divine quand la faiblesse humaine s'est manifestée. Nous sommes comme David lorsque l'Éternel fit une brèche en la personne d'Uza parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche. Et David eut peur de Dieu en ce jour-là, disant « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» 1 Chronique 13, verset 12. Il est extrêmement difficile de fléchir devant le jugement et en même temps de maintenir les principes divins. Le danger est d'abaisser la mesure morale, de descendre de cette haute région jusqu'au terrain humain. Nous devons soigneusement nous garder de ce mal, d'autant plus dangereux qu'il se revêt des formes de la modestie, de la défiance de soi-même et de l'humilité. Malgré tout ce qui était arrivé, Aaron et ses fils devaient manger l'offrande de gâteau dans le lieu saint. Ils devaient la manger, non parce que tout s'était bien passé, mais parce que c'est là ta part et qu'il m'a été ainsi commandé. Quoi qu'il y eût péché, cependant leur place était dans le tabernacle, et ceux qui étaient là avaient certaines choses à eux assignées, d'après l'ordre divin. Lors même que l'homme eût manqué mille et mille fois, la parole de l'Éternel ne pouvait manquer, et cette parole assurait, à tous les sacrificateurs fidèles, certains privilèges dont ils avaient le droit de jouir. Les sacrificateurs de Dieu ne devaient-ils rien avoir à manger, aucune nourriture sacerdotale, parce qu'une faute avait été commise? Ceux qui étaient demeurés de reste devaient-ils avoir faim, parce que Nadab et Abihu avaient offert un feu étranger? Non, assurément. Dieu est fidèle, et il ne permettra jamais que l'on reste avide en sa présence bénie. Le fils prodigue peut s'égarer, errer, dépenser tout son bien et tomber dans l'indigence, mais il sera toujours vrai que, dans la maison de son père, il y a du pain en abondance. Et vous mangerez la poitrine tournoyée et l'épaule élevée dans un lieu pur, toi et tes fils et tes filles avec toi, car elles vous sont données comme ta part et la part de tes fils dans les sacrifices de prospérité des fils d'Israël, par statut perpétuel, comme l'Éternel l'a commandé, versets 14 et 15. Quelle force et quelle stabilité nous avons ici! Tous les membres de la famille du sacrificateur, les filles aussi bien que les fils, tous, quelle que soit la mesure de leur énergie ou de leur capacité, doivent se nourrir de la poitrine et de l'épaule, type des affections et de la force du vrai sacrifice de prospérité, en tant que ressuscité d'entre les morts et présenté devant Dieu. Ce précieux privilège leur appartient en tant que leur ayant été donné par statut perpétuel, comme l'Éternel l'a commandé. Cela rend tout sûr et ferme, quoi qu'il puisse arriver. Les hommes peuvent manquer et pécher. Le feu étranger peut être offert, mais la famille sacerdotale de Dieu ne doit jamais être privée de la riche et miséricordieuse portion que l'amour divin lui a procurée et que la fidélité divine lui a garantie par statut perpétuel. Cependant, nous devons faire une distinction entre les privilèges qui appartenaient à tous les membres de la famille d'Aaron, filles aussi bien que fils, et ceux dont la partie mâle de la famille pouvait seule jouir. Nous avons déjà fait allusion à ce point dans les notes sur les offrandes. Certaines bénédictions sont communes à tous les croyants, simplement comme telles, et il en est d'autres qui demandent une plus grande mesure de connaissance spirituelle et d'énergie sacerdotale pour être comprises et goûtées. Or, il est tout à fait inutile, il est même coupable de prétendre à la jouissance de cette plus haute mesure quand, en réalité, nous ne la possédons pas. C'est une chose que de tenir ferme les privilèges qui sont donnés de Dieu et qui ne peuvent jamais être ôtés, et autre chose de prétendre à une capacité spirituelle à laquelle nous n'avons jamais atteint. Sans doute, nous devons désirer ardemment la plus haute mesure de communion sacerdotale, l'ordre le plus élevé des privilèges des sacrificateurs. Mais il est bien différent de désirer une chose ou de prétendre l'avoir. Cette pensée jettera de la lumière sur la dernière partie de notre chapitre. Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché, mais voici, il avait été brûlé. Et Moïse se mit en colère contre Éléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans un lieu saint? Car c'est une chose très sainte. » Et il vous l'a donné pour porter l'iniquité de l'assemblée, pour faire propitiation pour eux devant l'Éternel. Voici, son sang n'a pas été porté dans l'intérieur du lieu saint. Vous devez de toute manière le manger dans le lieu saint, comme je l'ai commandé. Et Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont présenté aujourd'hui leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel, et ces choses me sont arrivées. Et si j'eusse mangé aujourd'hui le sacrifice pour le péché, cela eût-il été bon aux yeux de l'Éternel ? » Et Moïse l'entendit, et cela fut bon à ses yeux. Les filles d'Aaron n'avaient pas la permission de manger du sacrifice pour le péché. Ce grand privilège n'appartenait qu'aux fils, et il était le type de la forme la plus élevée du service sacerdotal. Manger du sacrifice pour le péché était l'expression de la complète identification avec celui qui l'offrait, et cela demandait une mesure de capacité sacerdotale et une énergie qui trouvait leur type dans les fils d'Aaron. Dans cette occasion-ci, cependant, il est évident qu'Aaron et ses fils n'étaient pas en état de s'élever jusqu'à cette sainte hauteur. Ils auraient dû l'être, mais ils ne l'étaient pas. « Ces choses me sont arrivées, dit Aaron. Sans doute, c'était une faute à déplorer, mais pourtant, Moïse l'entendit, et cela fut bon à ses yeux. Il vaut beaucoup mieux être sincère dans la confession de nos chutes et de nos négligences que d'avoir des prétentions de force spirituelle qui sont tout à fait sans fondement. » Ainsi donc, le 10e chapitre du Lévitique s'ouvre par un péché positif et se termine par une faute d'omission. Nadab et Abihu offrent du feu étranger, et Éléazar et Ithamar sont incapables de manger l'offrande pour le péché. Le péché attire le jugement divin, la faute est traitée avec une indulgence divine. Il ne pouvait y avoir de tolérance pour le feu étranger. C'était braver ouvertement le commandement formel de Dieu. Il y a évidemment une grande différence entre la transgression délibérée d'un commandement positif et la simple incapacité de s'élever à la hauteur d'un privilège divin. Le premier cas est un déshonneur ouvertement fait à Dieu. Le second est un tort qu'on se fait en se privant de sa propre bénédiction. Ni l'un ni l'autre ne devrait avoir lieu, mais la différence entre les deux est facile à saisir. Puisse le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous faire toujours habiter dans la retraite cachée de sa sainte présence, demeurant dans son amour et nous nourrissant de sa vérité. Ainsi nous serons préservés du feu étranger et de la boisson forte, c'est-à-dire de tout culte faux et de l'excitation charnelle sous toutes ses formes. Ainsi aussi nous serons rendus capables de nous comporter droitement dans tous les détails du ministère sacerdotal et de jouir de tous les privilèges de notre position de sacrificateur. La communion du chrétien est comme la sensitive. Elle est aisément affectée par les rudes influences d'un monde méchant. Elle se développera sous l'action bienfaisante de l'atmosphère du ciel, mais devra se fermer résolument au souffle glacial du monde et des sens. Souvenons-nous de ces choses et tâchons de demeurer toujours dans l'enceinte sacrée de la présence divine. Là, tout est pur, heureux et sûr.